Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Les femmes de plus en plus touchées par le cancer, c'est ce qu'a révélé un rapport de Santé publique France publié en juillet dernier. L'année dernière, environ 2000 personnes ont été touchées par cette maladie. 54% étaient des hommes, 46% des femmes. Si on observe l'évolution du nombre de personnes malades entre 1990 et 2018, celui-ci a augmenté de 65% chez l'homme et 93% chez les femmes. Il y a donc plus de personnes atteintes d'un cancer en 2018 qu'en 1990. Pourquoi ? Nous tenterons de répondre à cette question. Nous parlerons également de l'évolution des cas de cancer chez les femmes avec nos invités déjà installés sur le plateau d'Africa Radio. Françoise Amers vient de Santé publique France. Merci d'être avec nous. Vous êtes coordinatrice de l'évolution des dépistages des cancers. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À vos côtés, Paul Latino Martel, vous êtes médecin, vous êtes coordinatrice du réseau NACRE, c'est le réseau national alimentation cancer recherche. Merci également d'être avec nous sur le plateau d'Africa Radio. Et nous accompagne aussi Rokiatou Sissoko, vous êtes conseillère au pôle santé médiation Espace 19, c'est à Paris, je suppose. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on va commencer avec les chiffres, si vous voulez bien, Françoise Amers. On rappelle les chiffres, en 2018, 157 400 personnes sont mortes d'un cancer, 89 600 hommes, 67 800 femmes. Si l'on met de côté les effets démographiques, la mortalité par cancer est en baisse en France, mais de façon moins marquée chez les femmes. Est-ce que vous nous expliquez ce que disent ces chiffres ? Bonjour.
Oui, bonjour. Donc, juste si on reprend les chiffres, les nouveaux cas de cancer, en fait, effectivement, il y a plus de nouveaux cas de cancer maintenant qu'en 1990.
Ouais.
La réponse, enfin, une des raisons, c'est que le cancer, c'est une maladie qui touche les personnes âgées, les personnes les plus âgées. L'âge, c'est le facteur de risque principal. Donc, si on met de côté l'âge, enfin, le vieillissement de la population et l'augmentation de la population, eh bien, on voit que, en fait, ce qui a changé, c'est que les facteurs de risque ont changé.
Oui.
Et en particulier pour les femmes, il y a une évolution des facteurs de risque de cancer. On sait qu'environ 40% des cancers sont dus à des facteurs de risque évitables,
oui,
que sont le tabac, l'alcool, le surpoids, l'obésité, l'alimentation. Et il y en a d'autres, mais ça, ce sont les principaux.
Oui.
Et ces facteurs ont très fort changé chez les femmes, avec une augmentation de la prévalence du tabagisme et également une augmentation du surpoids et de l'obésité, et une augmentation de... Enfin, il y a eu chez les femmes, alors que chez les hommes, la consommation d'alcool a diminué.
Oui.
Au cours des années, chez les femmes, cette consommation a moins diminué que chez les hommes.
Alors, quels sont les cancers les plus fréquents chez les hommes ? Quels sont les plus fréquents chez les femmes ?
Alors, chez les hommes, le cancer le plus fréquent, c'est le cancer de la prostate.
D'accord.
Suivi par le cancer du poumon et le cancer colorectal.
Mettez-vous bien en face du micro parce qu'on ne vous entend pas très bien.
D'accord. Voilà. Et chez les femmes, le cancer le plus fréquent, c'est le cancer du sein.
Oui.
Qui est le plus fréquent et qui est la première cause de décès par cancer. En fait, le deuxième cancer chez les femmes, c'est le cancer...
On ne s'entend pas très bien.
Le deuxième cancer chez les femmes, c'est le cancer colorectal.
D'accord.
Par contre, en termes de décès, le cancer du poumon est le deuxième cancer le plus meurtrier. Oui. Et il est... probablement en passe de dépasser la mortalité par cancer, le cancer du sein en termes de mortalité.
Alors, vous nous parliez de quelques facteurs de risque, en tout cas les plus importants, l'alcool, le tabac et l'obésité. Donc, alors justement, Paul Latino Martel, quelles sont les conséquences d'une mauvaise alimentation sur la santé ? Et justement, comment on explique qu'une mauvaise alimentation peut provoquer des cas de cancer ? Bonjour.
Bonjour. L'alimentation est vraiment essentielle pour le bon fonctionnement de notre organisme depuis la naissance jusqu'à la fin de notre vie. Un équilibre alimentaire est nécessaire et il se trouve qu'au cours de la vie adulte, On prend des habitudes alimentaires qui peuvent être plus ou moins favorables.
Oui.
Au cours des dernières décennies, il y a eu aussi une évolution des modes d'alimentation, avec une perte plus ou moins importante de repères. Et il est important d'avoir à l'esprit que certains facteurs sont plutôt protecteurs, plutôt favorables à la santé. Il s'agit notamment des fruits et légumes qu'il faut consommer en quantité suffisante,
ouais.
Tous les jours, au moins 5 portions de fruits et légumes variés dans notre alimentation quotidienne. Ajouter aussi des aliments autrement riches en fibres,
oui.
Tels que les aliments féculents complets, les légumes secs, qui sont des aliments nutritifs très intéressants, qu'on a un petit peu écarté de notre alimentation au fil du temps.
Oui.
Conserver des produits laitiers, 2 portions par jour. Voilà pour les aliments favorables. Et puis, il y a d'autres aliments qui sont à réduire. En premier lieu, l'alcool, vous en avez parlé.
Oui.
On a tendance à consommer trop d'alcool et chez les femmes aussi, l'alcool est responsable d'une augmentation du risque de cancer du sein, de cancer colorectal et d'autres cancers encore. Donc, réduire la consommation d'alcool, pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Au maximum 10 verres par semaine, donc pour certaines personnes, il y a lieu de bien réduire. Et puis, réduire aussi peut-être les consommations d'aliments tels que les viandes rouges et les charcuteries, qui sont associées au risque de cancer colorectal, les aliments salés. Et puis, pour certaines personnes qui ont tendance à prendre du poids, réduire les aliments très énergétiques, tels que les aliments gras et sucrés, les
ouais.
boissons sucrées
ouais.
aussi. Voilà.
Alors vous, Rukyata Sisoku, vous êtes sur le terrain, vous êtes conseillère au pôle santé médiation espace 19. Alors quels sont les cas de cancer dont vous parlez le plus, en tout cas par rapport aux femmes que vous recevez et que vous suivez? Bonjour.
Bonjour. Donc, juste pour vous citer, Espace 19, c'est une association qui est sur le 19e arrondissement de Paris.
D'accord.
C'est une association où il y a une forte population migrante.
Ouais.
Donc, les cancers dont nous parlons le plus souvent, c'est que les femmes qui ont déjà été atteintes de cancer, comme par exemple le cancer du sein, vont venir nous voir pour en parler, pour essayer de sensibiliser d'autres personnes. Ces femmes-là, elles sont très disponibles, elles participent même à des campagnes de publicité.
Oui.
Elles acceptent de publier leurs photos pour sensibiliser d'autres femmes. Mais c'est le plus souvent, c'est le cancer du sein et un peu le cancer du col de l'utérus.
Alors justement, ces femmes migrantes, comme on les appelle, alors est-ce qu'elles sont souvent isolées et comment accèdent-elles à l'information? Est-ce qu'il y a des soucis ou en tout cas, est-ce qu'elles vous font des retours par rapport à l'accès aux soins en cas de cancer, à l'information et au dépistage? Où en sont-elles, ces femmes?
Alors, ces femmes, oui, elles sont isolées parce que le premier facteur d'isolement en France, c'est la maîtrise de la langue française.
Ouais.
Donc, ce sont des personnes qui parlent pas bien français. Donc, du coup, elles sont un peu isolées. Donc, elles viennent nous voir pour déjà rompre cet isolement-là et pour participer à des cours de français. Voilà, elles viennent pour participer à des cours de français, mais aussi d'autres activités comme des sorties culturelles. Elles participent à des ateliers cuisine. Voilà, des ateliers physiques, le plus souvent, ben, elles participent à ça. Et par rapport à l'accès aux soins, donc du coup, c'est des femmes, comme je disais, qu'elles ne maîtrisent pas bien la langue française, donc du coup, elles ont du mal à prendre rendez-vous avec des médecins de ville.
Oui.
Voilà, parce que aussi aujourd'hui, on sait que la plupart du temps, toutes les démarches en santé se font sur Internet et c'est des personnes qui ne maîtrisent pas très bien l'outil informatique. Donc du coup, ça fait aussi un blocage au niveau de l'accès aux soins.
Ouais.
Certaines aussi, d'ailleurs, n'ont même pas de couverture médicale.
D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il y a des prises en charge?
Alors nous, ce qui se passe, c'est que au sein de notre équipe, j'ai des collègues qui sont médiatrices socioculturelles,
oui.
qui parlent plusieurs langues, l'anglais, le tamoul, le chinois, plusieurs langues africaines. Donc elles accompagnent ces femmes-là vers
des
structures de santé.
Ouais.
Et aussi mon travail que je fais à Espace 19, c'est d'organiser des ateliers santé Et dans ces ateliers santé, donc, je parle de l'importance du dépistage, l'importance des
frottis. Justement, est-ce qu'elles sont réceptives à ces messages?
Oui, elles sont réceptives à ces messages parce que, en fait, déjà, je suis de la communauté, ouais. Parce que on va dire que c'est une grosse communauté à majorité migrante, donc elles sont réceptives parce que déjà on sait que la sensibilisation par les pères est très 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 importante, ouais. Et ça a un impact. Donc c'est des personnes qui vont écouter et qui vont dire ben cette personne elle nous a parlé, donc elle connaît, elle est ici en France depuis plusieurs années, elle connaît la culture, donc elle nous parle, on va essayer de la suivre, comme on dit, ben, sensibilisation par les pairs. Et surtout quand je parle avec ces personnes-là, j'utilise un langage simple parce ouais. que je sais que c'est des personnes qui maîtrisent pas le français, donc je vais utiliser un langage simple, je vais utiliser des images, je vais utiliser des moyens concrets, des moyens de démonstration qui vont faire qu'elles vont saisir l'information.
Alors, on va faire un petit focus à présent, si vous voulez bien, mesdames, sur un cancer qui ne concerne que les femmes, un cancer très présent, malheureusement, en Afrique subsaharienne, c'est le cancer du col de l'utérus. Donc, Françoise Amers, de Santé publique France, un mot sur ce cancer du col de l'utérus en Afrique subsaharienne?
Oui, donc en Afrique subsaharienne, c'est le cancer le plus fréquent, avec le cancer du sein. C'est le cancer le plus fréquent, oui. Et c'est aussi la première cause de cancer chez les femmes en Afrique subsaharienne. Oui. Donc c'est très différent.
Alors qu'en France, il occupe seulement la 12e place en termes de cancer chez les femmes.
Oui, et encore plus bas en termes de mortalité.
Pourquoi cette différence?
Alors la différence, c'est que c'est un cancer qui est maintenant complètement évitable.
Rapprochez-vous un peu du micro, excusez-moi de vous embêter.
C'est un cancer qui est évitable. Ouais. Il y a deux armes de prévention qui sont très efficaces. C'est le dépistage et la vaccination. Ouais. Le dépistage a été mis en place dans de nombreux pays industrialisés, dont la France. Donc c'est le frottis du col de l'utérus et qui a permis de diminuer très fort le nombre de nouveaux cas et la mortalité en France ainsi que dans les autres pays d'Europe et d'autres pays industrialisés. Oui. En Afrique, ce dépistage n'a pas été mis en place dans la plupart des pays. L'autre outil de prévention qui est très efficace, c'est la vaccination.
Oui. Mais on ne vaccine que les jeunes filles.
Contre le virus HPV. Alors, actuellement en France, la vaccination est recommandée chez les jeunes filles. Oui. La Haute Autorité de Santé vient d'émettre un avis hier recommandant de vacciner également les garçons.
D'accord.
Pourquoi ? Parce que le HPV, c'est une infection sexuellement transmissible, qui est très fréquente.
Pour casser la chaîne de transmission, enfin essayer en tout
voilà.
cas de...
Voilà, c'est pour casser la chaîne de transmission, et puis aussi pour normaliser la vaccination. Parce que c'est une vaccination qui, en France, est très peu utilisée. Il y a environ 25% de la population cible qui est vaccinée.
Oui.
Et donc... une des raisons de vacciner les garçons serait de normaliser, si on veut, cette vaccination.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque comme la mauvaise alimentation, l'obésité sur les cas de cancer du col de l'utérus, docteur?
Non, c'est pas vraiment les facteurs alimentaires. C'est comme ça vient d'être dit, c'est plutôt une transmission lors des rapports sexuels. Donc les facteurs alimentaires, eux, sont plus en lien avec les cancers les plus fréquents,
les
cancer du sein, ouais. Cancer colorectal, cancer digestif en général.
Alors, est-ce que vous recevez beaucoup de femmes qui ont ce cancer du col de l'utérus? Vous pouvez en dire un petit mot, Kiata?
Oui, alors nous recevons des femmes qui ont ce cancer-là, mais bon, c'est pas la majorité des personnes qu'on reçoit, comme je disais tout à l'heure. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait vraiment un travail de prévention parce que, pour déjà détecter ce cancer-là, il faut avoir un suivi gynécologique régulier.
Oui.
Il faut aller chez le gynécologue. Et la plupart des personnes que nous recevons n'acceptent pas trop d'aller voir un gynécologue homme. Oui. Elles préfèrent aller voir un gynécologue femme, un médecin femme ou voilà une sage-femme pour faire ce suivi là. Donc du coup souvent comme elles ont du mal à accéder à ça, ben ça fait que parfois ben les cancers c'est plus tardivement que elles s'en rendent compte. Mais nous, le travail qu'on fait donc de prévention par rapport à ça, c'est de les inciter vraiment à aller voir des médecins et on les accompagne physiquement pour aller soit dans un centre de planification où elles vont voir une sage-femme ou dans des maisons de santé avec lesquelles on travaille beaucoup.
Alors, on va dire un mot sur le programme de dépistage du col du cancer de l'utérus en France. Hein, troisième programme de dépistage des cancers, un programme actuellement mis en place en France. Qui veut en parler? Alors, en quoi il consiste? Allez-y.
Donc, Hermès. Voilà. Hermès. Donc, le cancer, le dépistage consiste à réaliser ce qu'on appelle un frottis, un prélèvement au niveau du col de l'utérus.
D'accord.
Pour examiner les cellules du col de l'utérus et voir s'il y a des anomalies. En fait, ce qu'on veut faire avec ce dépistage, c'est de dépister des lésions précancéreuses,
ouais,
de manière à pouvoir les traiter et éviter l'apparition d'un cancer. Alors, le programme s'adresse aux femmes de 25 à 65 ans, mmh, et le dépistage tel qu'il est actuel, doit être fait tous les 3 ans.
D'accord, c'est une invitation qu'on reçoit dans sa boîte aux lettres.
On va recevoir par courrier, les invitations ne sont pas encore parties, mais vont partir vers la fin 2019 et 2020, et toutes les femmes de 25 à 65 ans vont recevoir un courrier pour faire ce dépistage.
C'est tous les 3 ans.
Actuellement, c'est tous les 3 ans. Alors là encore, la Haute Autorité de Santé a émis de nouvelles recommandations en juillet.
D'accord.
Recommandant que le test de dépistage chez les femmes les plus jeunes de 25 à 29 ans continue à se faire par ce qu'on appelait le frottis ou la cytologie. Mais pour les femmes à partir de 30 ans, le test, c'est maintenant un test HPV. Donc on va regarder s'il y a du virus HPV. C'est le virus, ça veut dire le virus du papillome humain.
D'accord.
C'est le virus qui est responsable du cancer du col de l'utérus.
Alors,
ça sera tous les 5 ans.
Tous les 5 ans. Les femmes peuvent prendre rendez-vous pour réaliser ce dépistage auprès d'un gynécologue, d'un médecin généraliste, d'une sage-femme, d'un centre de santé. Aussi, c'était important qu'il y ait un panel au niveau de l'offre pour rendre plus facile ce dépistage. Mesdames, qui veut répondre? Alors, est-ce que vous recevez justement des femmes qui ont cette invitation, qui viennent vous voir pour vous dire qu'est-ce que c'est ou leur expliquer un petit peu de quoi il s'agit?
Bien sûr. Alors ça faisait aussi partie des difficultés d'accès aux soins et des dépistages, parce que c'est en fait des femmes, comme je disais, je me réfère toujours à notre public parce que notre public ne maîtrise pas bien l'écrit.
Ouais.
Donc du coup, par exemple, si je prends l'exemple du cancer du sein, parce que ça existe déjà, il y a une lettre qui est envoyée. Donc cette lettre-là, la plupart du temps, n'est pas comprise.
Ouais.
On ne sait pas ce que c'est, on pense que c'est de la publicité. Et souvent, cette lettre, elle va à la poubelle. Donc moi, à mon niveau, qu'est-ce que je fais pendant mes ateliers de sensibilisation ou de prévention? Donc j'ai un exemplaire de cette lettre-là que je montre aux femmes.
D'accord.
Je leur dis, alors, est-ce que vous avez déjà reçu cette lettre? Et il faut savoir maintenant que si vous la recevez, que ce n'est pas de la publicité, que c'est pour aller prendre rendez-vous pour faire une mammographie. Et parfois, je fais témoigner des femmes qui sont là pour leur dire, vous avez déjà fait une mammographie.
Expliquer comment ça se passe pour
rassurer les gens. Parce que certaines ont peur, elles pensent que ça fait mal. Donc du coup, les rassurer, leur dire, voilà, ça ne fait pas mal. Moi, je l'ai déjà fait, donc tout le monde peut le faire.
Alors, le test de dépistage, on est toujours sur le cancer du col de l'utérus, est un test de dépistage. En tout cas, l'invitation, c'est gratuit, sans avance de frais. Donc, c'est important de le rappeler également aux auditeurs qui nous écoutent. Et puis, on sait aussi qu'à terme, le programme prévoit de fournir des kits d'auto-prélèvement aux femmes qui ne répondent pas au programme. Par exemple, des femmes qui sont dans des situations précaires, qui vivent dans la rue, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour ces femmes? Peut-être vous, Françoise Hermès.
Alors oui, il y a des femmes qui justement n'aiment pas aller, enfin se faire examiner par un médecin, surtout un médecin homme,
ouais.
Ou ont des difficultés à aller voir un gynécologue ou un médecin généraliste. Et donc c'est un kit qui permet à la femme de prélever elle-même au niveau du vagin un échantillon de cellules,
ouais.
Et donc qui sera envoyé à un laboratoire. Et donc les études, il y a différentes études, y compris des études en France, qui montrent que ce test est plus facilement acceptable par certaines femmes.
Voilà. Alors on a parlé un petit peu tout à l'heure rapidement de la vaccination. Est-ce qu'on peut revenir dessus à qui peut-on vacciner? Est-ce que c'est un vaccin qui est sûr? Dites-nous-en un petit peu plus, s'il vous plaît.
Donc, c'est un vaccin qui, actuellement, en France, est recommandé pour toutes les jeunes filles de 11 à 14 ans.
Ouais.
Et elle peut être faite jusqu'à 19 ans. C'est ce qu'on appelle le rattrapage pour les jeunes femmes qui n'ont pas été, jeunes filles qui n'ont pas été vaccinées avant. Ce qui est important, c'est de vacciner avant les premiers rapports sexuels, donc avant que les personnes aient été en contact avec le virus HPV. Comme je disais,
c'est un virus que tout le monde rencontre.
Quasiment tout le monde.
Dès qu'on a une activité sexuelle.
Voilà.
D'accord.
Voilà, très très rapidement. Et c'est un virus. L'organisme permet de s'en débarrasser
naturellement.
Dans la plupart des cas, on va s'en débarrasser naturellement.
D'accord.
Mais dans certains cas, enfin. De rares cas, ce virus peut rester présent, notamment au niveau du col de l'utérus,
ouais.
Provoquer des changements au niveau des cellules qui ensuite peuvent se transformer en lésions précancéreuses, qui, si elles ne sont pas soignées, peuvent ensuite évoluer en cancer.
Oui, allez-y, Riquette.
Donc nous, par rapport à justement tout ce qui concerne les vaccins, quand on sait que quand il y a des nouveaux vaccins, il y a une peur, tout le monde a peur, tout le monde en parle. Donc ce qu'on fait nous au sein d'Espace 19,
ouais.
C'est que quand je fais des ateliers de sensibilisation, souvent il y a des questions, le virus, le Gardasil, on sait qu'il y a des conséquences, ça peut rendre... Moi, je donne des données scientifiques. Je leur dis, voilà, moi je suis comme vous et j'ai vérifié, j'ai regardé et je sais que c'est des choses qui marchent. Donc du coup, il faut y aller. Il faut vraiment
casser les
toujours...
idées reçues, les peurs.
Voilà, il faut casser les idées reçues. Il faut dire que, tout le monde peut le faire. Et c'est ça qui marche, en fait. Il faut vraiment essayer de convaincre les gens. Sinon, ça ne marchera pas.
Alors, la partie prévention, à présent, les conseils de prévention. Alors, on va y revenir avec vous, si vous le voulez bien, Paul Latino-Martel. Les conseils au niveau de l'alimentation, de l'activité physique également. C'est important de rappeler aux personnes qui nous écoutent que pour éviter les cancers, en tout cas, il faut bien manger et bouger.
Oui. Et puis réduire l'alcool. Voilà, les trois... Je dirais que dans notre pays, ce sont les trois priorités. Peut-être l'alcool en premier lieu, parce qu'on a vu, c'est 8% des cancers qui sont liés aux boissons alcoolisées. À égalité, c'est l'alimentation et la lutte contre la surcharge pondérale.
Ouais.
Éviter d'être en surpoids ou en situation d'obésité. Et ça passe justement par une meilleure alimentation et une plus grande activité physique. Voilà, donc c'est vers ça qu'il faut aller, éviter de trop regarder, rechercher des informations sur Internet, parce que bien souvent, elles ne sont pas validées. Au point de vue nutritionnel, on voit quelles sont les trois priorités. Et bien sûr, ne pas oublier d'arrêter le tabac, premier facteur de risque de cancer et de mortalité en France.
Les informations sur le site mangerbouger.fr, www.mangerbouger.fr pour en savoir un petit peu plus. Alors, je vais vous laisser redonner les derniers conseils en ce qui concerne la prévention, le dépistage. Françoise Amers, ce que vous avez envie de dire pour terminer aux auditeurs qui nous écoutent?
Oui, donc, Donc on a parlé du cancer du dépistage du cancer du col de l'utérus. Il y a aussi le dépistage du cancer du sein, donc là qui s'adresse aux femmes de 50 à 74 ans, donc qui sont invitées tous les deux ans à faire une mammographie, donc une radiographie des seins.
Ouais.
Et puis il y a le dépistage du cancer colorectal, donc là qui s'adresse également là aux femmes et aux hommes de 50 à 74 ans. Et là le test, c'est un test de recherche de sang dans les selles, où les personnes sont invitées à aller chez leur médecin généraliste chercher un kit de prélèvement de selles.
Les infos sur le site de la Ligue contre le cancer, www.ligue-cancer.net. Il y a tout plein d'autres sites internet, par exemple l'Institut National du Cancer, le site de Santé Publique France également. N'hésitez surtout pas. Alors je vais vous laisser à la conclusion finale, peut-être pour interpeller les auditeurs, les auditrices qui nous quittent ce matin et qui hésitent encore à aller se faire dépister ou à se faire vacciner. Alors il y a tout, Sissoko, qu'est-ce que tu as envie de dire pour terminer?
D'accord. Alors c'est que moi j'avais déjà envie de dire, c'est par rapport à ce qu'elle disait ma collègue sur les dépistages. Donc nous, Espace 19, on fait partie d'un collectif qui est composé de l'assurance maladie, de la lutte contre le cancer et de la télésanté-ville de la mairie du 19e.
Ouais.
Donc nous organisons des rencontres grand public où on va dans les marchés, dans les grands espaces pour pouvoir sensibiliser les gens à ces dépistages-là pour les femmes de 50 à 74 ans. Et moi, en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que mon travail à Espace 19 sur tout ce qui est accès aux soins, ben, ça passe par une démarche d'accompagnement.
Ouais.
Cet accompagnement est basé sur l'insertion, sur le fait que les gens, ben, il faut qu'ils accèdent à des cours de français, qu'ils accèdent à des cours d'informatique, parce qu'on sait que aussi ça c'est un frein, comme je l'avais dit tout à l'heure, qu'ils accèdent à des activités physiques. Nous organisons aussi des marches, des marches avec des femmes.
Et des ateliers pour cuisiner ensemble, également.
Oui, on fait des ateliers alimentation, sur la nutrition. On fait des ateliers pour rompre l'isolement, pour que les gens puissent venir, parce qu'elles viennent pour apprendre le français, mais en même temps pour voir autre chose. Donc, on fait des sorties culturelles.
Ouais.
Par exemple, s'il y a un jour un colon géant sur la place de Stalingrad, on va les amener, on va amener toutes les femmes pour qu'elles aillent visiter le colon géant, qu'on sait que pour voir c'est quoi le cancer colorectal.
Ouais.
Donc c'est tout ce qu'on fait, et c'est aussi maintenant qu'on appelle la littératie en santé, c'est de donner aux populations le moyen d'accéder à l'information, de comprendre cette information, donc en adaptant le langage, de pouvoir évaluer sur leur santé, ce que cette information donne, et de pouvoir l'appliquer, la mettre en œuvre. Voilà.
Merci à toutes les trois d'avoir répondu à notre invitation ce matin pour parler des cas de cancer chez les femmes. Merci beaucoup d'être venues sur le plateau d'Africa Radio. Dans un instant, la pause, et on commence Ambiance Africa dans un instant.